talmudique. Que retiendront les historiens des siècles et des décennies futures de ce que fut l'année 2020 en France et dans le monde? Sans aucun doute, quelle fut l'année de la grande pandémie qui bouleversa à la fois les politiques, les économies et les mentalités. Tant du grand confinement et des petits reconfinements, tant des masques et de la maladie et de la mort, tant d'une transformation de nos habitudes, tant de gestes interdits et d'inventions de nouvelles manières d'être dans les relations professionnelles, sociales et familiales. Ces historiens se souviendront aussi que les premiers moments du grand confinement furent ceux d'un électrochoc qui sembla raviver, au moins pour un temps, une conscience morale et appelant notre attention sur tout un monde invisible, sur toutes ces personnes engagées au péril de leur vie à soigner, protéger, accompagner, réconforter, soutenir, aider toutes les personnes affaiblies par la maladie ou touchées par le deuil. Ils se souviendront alors aussi de tous ces concerts d'applaudissements qui, tous les soirs à 20h précises, cherchaient à dire toute la reconnaissance et la gratitude de toute une nation envers cet engagement remarquable. Ils se souviendront de ce grand merci prononcé par des millions de bouches à la fois terrorisées par ce qui se passait et en même temps rassurées par ce qu'ils découvraient de ne pas être livrés à la solitude et abandonnés à la dérélection de ces temps difficiles. Et ils se souviendront aussi, peut-être, que ce fut alors un moment privilégié où se produisirent non seulement ces élans et ces manifestations de gratitude, mais aussi celui d'une interrogation sur le sens de ce que représente la gratitude, sur ce que signifie le mot reconnaissance et l'expression rendre grâce, et en particulier sur la signification de ce petit mot qui, somme toute, reste fortement énigmatique, merci. Un mot qui n'est pas étranger à la fête de Kippour, qui commence ce soir, comme il ne l'est pas de la liturgie synagogale. En général, lorsque, à chaque office du Shabbat en France par exemple, on prononce une bénédiction pour la République française et le peuple français, coutume inattendue mais bienvenue, qui souligne à quel point le judaïsme possède un attachement particulier et profond à la gratitude, c'est-à-dire aussi une mémoire forte, non seulement pour le mal, mais aussi pour le bien qui a été fait. Prière qui n'est pas sans évoquer la prière des soldats juifs anglais qui remerciaient en 1914 Mother England de leur avoir permis de combattre pour la liberté dans ses rangs. Mais le concept de gratitude n'est pas simple et le mot merci n'est pas un mot banal. Et exprimer sa reconnaissance requiert un savoir-faire qui exige de la nuance et une fine intelligence. Et dès lors, on comprendra que c'est une chance exceptionnelle et un immense plaisir de recevoir aujourd'hui une philosophe qui a très longuement et profondément réfléchi à toutes ces questions. Catherine Chalier, bonjour.
Bonjour.
Catherine Chalier, on ne vous présente plus car les auditeurs de Talmudique vous connaissent très bien. Je rappellerai cependant que vous êtes philosophe, professeur émérite à l'Université de Paris-Ouest-Nanterre, auteur d'une œuvre considérable et essentielle consacrée à la philosophie et à la pensée juive. Et vous venez de publier un livre intitulé « Découvrir la gratitude », sous-titré « Au risque de l'asymétrie ». Un livre qui nous invite à penser la gratitude à partir de la non-symétrie. Comment vous est venue l'idée de ce livre? Pourquoi ce livre particulièrement aujourd'hui, Catherine Chalier?
Je dirais d'abord par rapport à votre présentation que j'avais fini d'écrire ce livre avant la pandémie, donc ce n'est pas directement lié à ce que vous avez dit à ce sujet, ni aux manifestations de gratitude qui ont aussi eu lieu pendant cette terrible période. Mais c'est lié malgré tout en ce sens que je suis frappée depuis des années que quand on écoute les informations, on entend des discours qui sont des discours de plainte, des discours de colère, des discours de revendication et des discours surtout d'accusation et jamais des discours de gratitude. Alors mon propos n'est pas du tout de dire que tout va bien dans le monde et qu'il faut justement être reconnaissant que tout aille bien. Ça serait ridicule. Mais au contraire, essayer, malgré la conscience que je crois avoir du tragique de ce monde et des souffrances qui y sont, essayer justement de tracer un fil dans lequel puisse émerger quelque chose d'autre. En ce sens, je dirais peut-être que, quoi que en disent beaucoup de gens, tout n'est pas politique. Et c'est en dehors de ce champ politique que j'ai essayé de frayer une voie qui peut bien sûr avoir des conséquences au niveau politique, mais qui ne se situe pas d'abord dans ce champ-là.
Commençons, si vous le voulez bien, à définir cette idée fondamentale. Qu'est-ce qu'une gratitude au risque de la non-symétrie, Catherine Chalier ?
Généralement, la gratitude et le merci s'inscrit pour la plupart des personnes dans un système d'échange, de symétrie, de reconnaissance, mais en espérant justement qu'il y aura un retour, comme on dit maintenant. Donc c'est une façon moderne de dire ça, c'est-à-dire que c'est au fond une façon économique de le penser. Je donne et moi qui reçois, je dois rendre. C'est déjà une perspective que des penseurs très savants ont développée, comme Marcel Mauss dans son œuvre, c'est-à-dire un système d'échange entre deux personnes. Et donc, autrement que Marcel Mauss, dans notre société très précise, c'est aussi lié avec le sentiment que nous ne voulons pas être en dette. Nous ne voulons pas être en dette et donc c'est pour ça que nous voulons rendre. Et donc, éventuellement par un merci du bout des lèvres, mais que ça soit fait une bonne fois pour toutes. Et donc, nous sommes dans une société où l'asymétrie, la comparaison, la rivalité aussi, sont prédominants. Et je crois que on ne peut pas penser la gratitude à l'intérieur de ce champ-là. Ce que l'on pense alors, c'est un système où on donne et on reçoit, et on doit recevoir à la mesure de ce que l'on doit donner. Ça touche aussi, d'ailleurs, le champ religieux, lorsqu'on dit que, finalement, Dieu nous le rendra. Il y est dans certains textes, Dieu vous le rendra au centuple même. Donc c'est un bon investissement que de donner quelque chose à quelqu'un dans cette perspective. Et donc je crois qu'aussi bien le registre éthique que le registre spirituel et religieux, mais aussi tout simplement le registre de nos rapports humains, aurait à gagner à penser une asymétrie en un seul mot, mais une asymétrie qui ne soit pas du tout celle, bien sûr, de la domination de l'un sur l'autre. Or, c'est généralement comme ça qu'on la pense, comme si on avait à sa disposition que l'asymétrie donnant-donnant, ou gagnant-gagnant, comme certains politiques osent le dire, donc là, plus loin, symétrie, et puis que l'asymétrie en un seul mot, c'était nécessairement un rapport de force dans lequel quelqu'un essayait de dominer l'autre ou un groupe de personnes ou une puissance, un pays, etc. Et je pense qu'on peut penser l'asymétrie en un seul mot d'une toute autre façon.
À savoir
une différence qui jamais ne se résorbe, mais qui fait percevoir la réalité autrement, et d'abord la nôtre propre. Et pas du tout dans un rapport qui soit un rapport sans cesse de comparaison avec les autres, qui nous fait découvrir en nous-mêmes une dimension de nous-mêmes qui est irréductible à ces comparaisons.
Mais comment ce merci, cette marque de reconnaissance non symétrique, comment elle fonctionne et quelle est sa place et sa valeur, Catherine Chalier ?
Je ne sais pas comment elle fonctionne, parce que ce n'est pas une machine. Mais dire merci s'adresse d'abord, je crois, à ce que nous découvrons en nous-mêmes, qui nous fait vivre, qui nous tient au plus près en nous-mêmes de la source de ce qui nous fait vivre. Ça peut être un merci qui s'adresse même à des gens absents. Je pense à un passage d'un livre d'Appelfeld, « Le garçon qui voulait dormir », dans lequel ce garçon qui revient de son expérience des camps et qui arrive en Israël et qui est complètement marqué par la tragédie, la perte des siens et la douleur et la souffrance, et qui soudainement retrouve une certaine joie à écrire en hébreu et à recopier les passages de la Bible. Et cette joie-là, il essaye d'ailleurs de la dire à un autre, mais il sent que cette joie-là ne peut pas être reçue par cette souffrance immense qui habite son compagnon. Et ce passage me frappe beaucoup parce que, d'une part, cette joie, elle est le critère de la gratitude. Mais cette gratitude, en l'occurrence, elle s'adresse au fait d'avoir reçu du passé une tradition qui fait frémir en lui ce qui veut continuer à vivre quand même. Et c'est grâce à ces mots qui lui viennent de très loin, et c'est pas par hasard que c'est la langue et la langue hébraïque qui vient réveiller en lui ce désir de vivre et de vivre quand même. Mais on voit qu'il ne peut pas la partager et que cette joie, eh bien, elle va poursuivre sa vie autrement. Et peut-être c'est l'œuvre d'Appelfeld qui la fera grandir et qui la fera vivre.
Donner une place au non-symétrique nécessite un déplacement du regard et du jugement. Et pourtant, la non-symétrie est au cœur du vivant, de la création, de son renouvellement. Non-symétrique, le texte biblique met aussi en scène, mais qui n'est pas toujours perçu par ses lecteurs. Vous vous arrêtez longuement, Catherine Chalier, sur l'épisode de Caïn et Abel que vous considérez paradigmatique de cette problématique.
Oui, il me semble que c'est un passage inépuisable pour réfléchir. C'est un passage justement où ces deux frères qui offrent un sacrifice et le sacrifice de l'un est accepté, celui d'Abel, et celui de l'autre est refusé. Donc on pourrait dire qu'il y a là injustice, vous voyez. C'est-à-dire que nous sommes surpris par le fait que les deux ne sont pas traités de façon égale. Or, je crois que le texte biblique nous dit ici que ce n'est pas parce que l'un a reçu l'agrément que l'autre doit être déchu. Et en fait, qu'il ne voit qu'une chose, c'est que Abel a été agréé et pas lui. Et il ne peut pas détourner son regard de Abel. Oui. Et donc nous sommes d'emblée dans la comparaison. Et je crois que si on veut connaître la joie dont je parlais tout à l'heure à propos d'Appelfeld, il faut cesser d'être dans la comparaison, dans la rivalité et dans la haine. Et donc Caïn ne voit que cela, il ne voit que ce refus parce qu'il se mesure à ce qu'a reçu son frère. Or, on peut tout à fait penser, d'accord, il n'a pas eu cette bénédiction, mais il pourrait en recevoir une autre. Et cette autre, ça serait celle qui est la sienne. Et tout le texte de la Genèse peut être relu de cette façon, dans les rapports des frères et des sœurs qui s'y déroulent. Et ça me semble extrêmement important si on veut justement essayer de penser qu'il n'y a pas un privilège indu et que l'autre est un pauvre réprouvé. Mais dans notre société, je crois que c'est très très difficile à penser parce qu'on est tout le temps dans un système de comparaison, de compétition, et avec une pensée de l'égalité, je ne suis pas du tout pour l'inégalité, mais une pensée de l'égalité qui parfois tourne court, parce qu'elle ne pense pas que l'égalité, ça peut être aussi pour chacun de développer ce qu'il a reçu en propre comme bénédiction.
Qu'est-ce que Caïn, par exemple, aurait pu considérer comme étant reçu en propre pour lui et pour laquelle il aurait eu de la gratitude?
Ça, je ne le sais pas moi-même, mais ce que je sais, c'est que le fait de ne voir que ce qui a advenu à son frère et pas à lui, ça lui interdit à jamais de trouver la source créatrice en lui-même. C'est ça qui est certain. Et donc, c'est très difficile, bien sûr, je suis consciente de ça. Mais c'est en regardant ailleurs, dans une autre direction, qu'il aurait pu trouver en lui cette source de création. Et c'est peut-être le sens de ce que lui dit Dieu à un moment donné, lorsqu'il lui dit, voilà, quand son visage s'est affaissé.
Par rapport à cette lecture, vous relisez aussi Jacob et Ésaü, où toutes ces situations, on a l'impression que l'un reçoit une bénédiction et l'autre n'en reçoit pas. Mais c'est simplement une incompréhension de ce qu'est la bénédiction. Qu'est-ce que l'on reçoit par rapport à soi-même? C'est cela que vous voulez dire?
Par exemple, dans l'épisode entre Jacob et Ésaü, ils reçoivent chacun une bénédiction.
Oui.
Mais Jacob veut celle d'Ésaü et Ésaü veut celle de Jacob. Et donc, c'est un rapport à la fois de peur pour l'un et de haine pour l'autre. Mais qu'est-ce que c'est une bénédiction? Même en français, en tous les cas, c'est une bonne parole. Alors, je pense que tout le monde a reçu quelques bonnes paroles, un petit lot de bonnes paroles, même si c'est dans un contexte dur, difficile, voire peut-être tragique. Mais je reviens encore au texte d'Appelfeld dont je parlais tout à l'heure. Oui. Et c'est cette bonne parole, ce petit, tout petit trésor de bonnes paroles que nous avons en nous, qu'il s'agit d'écouter, mais on ne l'écoutera pas si on regarde ce qui se passe chez autrui.
Et à ce moment-là, si on ne regarde pas ce qui se passe chez autrui, la revendication dont vous parliez au début se transforme justement en gratitude et en expression de gratitude pour la vie que l'on reçoit. Mais comment cette gratitude s'exprime à ce moment-là si elle n'est pas revendication? Dans quelle forme et dans quel terme?
la gratitude ici, pour celui qui la reçoit, c'est ce don d'une bonne parole qui nous habite, même des paroles simples de la vie quotidienne, reçues peut-être de parents, mais aussi de quelques personnes, qu'il s'agit aussi d'écouter et de faire grandir en nous-mêmes. Et alors, comment cette gratitude se manifeste ? Eh bien, elle se manifeste précisément par ce sentiment de veiller en nous-mêmes sur le fait de faire grandir cette parole, et c'est à ses fruits aussi qu'elle se manifeste.
La chanson que nous sommes en train d'entendre s'intitule « Modéani », c'est-à-dire « Je te remercie ». Elle a été composée par Meir Ariel et interprétée par Efrat Ghosh, une chanson qui reprend les paroles d'une prière que l'on récite au lever du lit, une prière que vous commentez, Catherine Chalier, dans un paragraphe intitulé « Les premiers mots du jour ». Sa traduction en français est la suivante. « Modéani, je te remercie, roi vivant et éternel, d'avoir restauré en moi mon âme avec miséricorde, grande est ta confiance. » Une prière importante pour votre réflexion sur la gratitude, Catherine Chalier. Et en vous posant cette question, me vient un commentaire, « Grande est ta confiance » pourrait signifier « Grande est la confiance que tu m'accordes de pouvoir faire de cette âme quelque chose d'important dans cette journée qui commence. » Catherine Chalier.
Et je voudrais ajouter à votre propre commentaire cette idée, en fait, c'est vraiment très très beau de commencer la journée par cette phrase, modéani au masculin, modéani au féminin, et cette idée qu'il y a en nous, puisqu'il fait allusion à l'âme, bon, c'est-à-dire ici, j'entends le mot âme par le fait qu'il y a en nous, malgré toute la souffrance qui peut nous habiter et toutes les difficultés de nos vies et voir le tragique de nos vies, une dimension en nous qui n'est pas atteinte par ce mal, qui reste en dehors de cette emprise souvent très violente qui nous fait croire que vraiment le monde est désespérant. Mais d'où ça vient cela ? Or, une idée fondamentale pour moi dans ce livre et qui le traverse de part en part, c'est cette idée que la bénédiction, pas simplement qui s'adresse à telle ou telle personne, elle est première. Elle est première dans la perspective biblique. Elle scande tout le livre 1 du chapitre de la Genèse, qui est sous le signe de « c'est bon », « kitov », c'est-à-dire « il est bon », la création de tout ce qui est bon, la création d'êtres humains à la ressemblance d'Elohim, « Betzelem Elohim » est bonne, et cette bonté originelle qui n'a rien à voir avec la bonté naturelle, je ne suis pas du tout en train de dire que les êtres humains sont bons naturellement, cette bonté originelle de la création, c'est cela la source de la profonde gratitude qui est la nôtre. Mais bien sûr, je suis tout à fait consciente qu'elle est occultée, bafouée, mise de côté par tout le mal que nous faisons et que nous subissons. Et le texte biblique le dit aussi. Mais il s'agit de retrouver sous cette épaisse couche de mal fait et subi, les deux, de temps en temps, en tout cas, cette dimension de bonté originelle. Et la personne qui, le matin, dit « modé anni », je ne sais pas forcément, et elle ne sait pas forcément si la journée va être bonne ou si ses soucis, ses tragédies vont s'apaiser enfin. Elle ne le sait pas. Mais elle est, malgré tout, elle est reliée en elle-même à cette bonté originelle de la création que j'appelle aussi dans le livre ce « oui » originel de la création. Et la gratitude, elle nous relie à ce oui originel de la création, et bien sûr, pas du tout dans un rapport de symétrie, parce que c'est ce que nous l'avons reçu, et il ne s'agit pas de le rendre. Il s'agit justement de le faire grandir, ce qui n'est pas la même chose.
Je pense à ce livre que vous citez beaucoup, le très beau livre de Philippe Lançon, qui s'appelle Le Lambeau, une tragédie, mais qui est traversé justement par la gratitude.
Oui, donc Philippe Lançon, donc ce journaliste et écrivain qui a été très gravement donc blessé lors de l'attentat de Charlie Hebdo, et dans son livre Le Lambeau, un très 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 beau livre que je conseille à tous, il y a ces moments où il dit sa gratitude, non seulement la gratitude bien sûr pour les personnes qui le soignent et qui veillent sur lui, pour sa famille qui veille sur lui, mais aussi pour, vous voyez, la musique qu'il écoute, les textes qu'il lit. Et ça, c'est très intéressant, justement, de penser comme nous avons un merci à dire pour tout ce que nous avons reçu, qui nous vient du passé, qui nous vient de ceux qui ne sont plus et qui nous ont, grâce à leurs œuvres diverses, laissé un ferment qui permet en nous, dans mon langage à moi, en tous les cas, de retrouver ce point de bénédiction qui est en nous. Et donc, il y a beaucoup d'autres écrivains qui le disent. Victor Hugo le dit aussi de façon très belle. Je dis merci et je fais pas le tri à propos des œuvres de ceux qui le précèdent. À qui nous l'adressons, ce merci?
Alors, ce merci dont vous parlez vient du latin mercedem, accusatif de merces, qui signifie le salaire, la récompense, le solde, l'intérêt. Et à la basse époque, en latin, c'était le prix, la faveur, la grâce qu'on accorde à quelqu'un en l'épargnant. Selon cette étymologie, dire merci reviendrait à donner une récompense, un salaire, à inscrire la gratitude entre deux personnes du côté de l'échange commercial et de la réciprocité, vous l'avez dit. Et pourtant, comme vous venez de nous l'expliquer, Catherine Chalier, la gratitude qui exprime le merci doit être pensée au-delà de la réciprocité. Non pas un merci pour quelque chose, un merci pour rien. Un merci pour exprimer le vivant par lequel on se sent traversé. Et je pense à cette analyse que vous faites du nom de Yehuda, duquel Rabbi David Kimchi dit que vient justement le mot hébreu Toda, qui veut dire merci, et dès lors inscrit peut-être le mot Yehudi, juif, qui en est dérivé dans une éthique de la gratitude, Catherine Chalier.
Oui, alors donc Yehuda, c'est le quatrième fils de Léa. Donc là, il y avait une rivalité entre Léa et Rachel, comme beaucoup le savent. Donc Rachel, c'était la femme bien-aimée de Jacob, mais elle n'avait pas d'enfant. Et Léa, c'était la femme délaissée de Jacob et qui, elle, a eu des enfants. Et donc Rachel voulait aussi la bénédiction de Léa, c'est-à-dire elle voulait aussi être mère. Elle ne voulait pas se contenter de sa bénédiction, d'être aimée de Jacob. Et Léa voulait celle de Rachel. Elle voulait être aimée. Et donc, à chaque naissance de ses premiers enfants, Rubens, Simon, etc., elle disait toujours, voilà, il va enfin m'aimer parce que je lui ai donné cet enfant. Et lorsque Yehuda naît et qu'elle l'appelle justement Yehuda, donc sur cette racine qui va donner merci, elle ne dit rien. Elle ne demande rien en échange. Donc le merci, c'est vraiment un merci qui ne demande strictement rien en échange et qui est la marque qui est inscrite dans le nom de Judas.
Alors c'est intéressant parce que ce moment où elle dit merci sans espérer rien en retour, c'est un moment de la naissance et ça touche à cette problématique qui est au cœur de votre réflexion, Catherine Chalier, quand vous parlez de l'impuissance sur l'origine, c'est-à-dire le fait que nous n'avons pas choisi notre naissance, Catherine Chalier.
L'impuissance sur l'origine, c'est une expression que j'emprunte à Lévinas. Il a écrit un texte sur ce sujet il y a très longtemps, c'était... je me souviens plus, 47-48, une conférence. C'est un thème très intéressant parce qu'aujourd'hui, et avant aussi, à son époque, cette idée justement de l'impuissance sur l'origine, elle était connotée négativement en ce sens qu'elle s'opposerait à notre liberté. Et quand Sartre disait « je veux me faire le fils de mes œuvres », c'était bien qu'il voulait refuser tout à fait l'origine. Et à l'heure actuelle, il me semble en tous les cas que ce sentiment prévaut avec l'idée que nous devons modifier cette origine, changer cette origine. Elle doit correspondre à l'idéal de notre liberté. Et ce faisant, ici, je voudrais préciser que l'idéal de liberté que nous nous faisons nous, c'est celui de l'autonomie. Or, la liberté, c'est pas forcément l'autonomie. Elle peut être pensée d'une façon différente. Et donc, nous faisant de la liberté un idéal de l'autonomie, l'autonomie, ça veut dire se donner à soi-même sa propre loi, nous ne supportons pas une origine qui viendrait limiter notre idéal de l'autonomie. Mais ce que j'essaie de penser, cette origine, il s'agit pas ici d'une origine au sens de nature, c'est pas ça, mais c'est nous ne nous sommes pas donné la vie à nous-mêmes, nous la recevons. Et donc, cette impuissance sur l'origine, elle n'est pas négative. Elle est à penser positivement, elle est à penser de façon créatrice, là encore, et non pas comme une entrave à ce que nous désirons être et qui nous enjoindrait d'effacer cette origine ou de la modifier, de la transformer grâce à la science, grâce à la technique ou tout ce que nous pouvons imaginer. Cette impuissance, cette passivité originaire est une bonne passivité.
Ce qui dit qu'avoir de la gratitude nécessite de la mémoire et donc du temps. Celui qui oublie le bien qui lui a été fait ne peut exprimer ni reconnaissance, ni gratitude, ni merci, ni rendre grâce de quoi que ce soit à qui que ce soit, ni aux hommes, ni à Dieu, ni à soi-même. Ce temps de la gratitude, pour vous, Catherine Chalier, ouvre une réflexion sur la jeunesse. La gratitude ouvre à la grâce du point source, dites-vous, un point qui seul pourrait nous donner la grâce de désobéir à la loi universelle du vieillissement, selon une expression de Peggy que vous citez. On retrouve toute la lumière de Rosh Hashanah et de Kippour. On pense bien sûr à la pensée chassidique et à Rabbi Nachman de Bratslav et son célèbre Assur Liyot Zaken. Il est interdit d'être vieux, mais tout cela nécessite commentaire, Catherine Chalier.
Ouais, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas vieillir d'un point de vue biologique et même aussi psychique. Non, certainement, mais il y a en nous cette dimension de jeunesse, cette dimension que Lévinas d'ailleurs relie à l'esprit. Pourquoi toujours jeune? C'est-à-dire si véritablement il y a en nous ce point source, selon différentes métaphores que l'on peut employer pour tenter d'en parler. Moi j'aime bien en parler avec les chassidim comme ce point intérieur, ce point source, ce point où l'infini et le fini se rencontrent en nous-mêmes. Il échappe au temps. Et c'est précisément cela, la jeunesse. Et la jeunesse, c'est pas simplement parfois l'idéal que nos sociétés modernes s'en font, c'est-à-dire d'être plein de fougue et d'insouciance et de faire mille et une choses. Je crois que c'est d'un autre ordre. Et ça nous habite profondément à chaque fois que nous parvenons, ce qui n'est pas toujours le cas, bien sûr, de rejoindre ce point source en nous-mêmes.
Qui signifie, si vous dites c'est d'un autre ordre?
C'est d'un autre ordre que d'être plein d'enthousiasme et d'énergie pour faire toutes ces tâches.
Oui, mais ce point source, qu'est-ce qu'on y trouve?
Ce point source, je dirais que ce point source, c'est ce qui nous donne en nous un tremblement de joie qui nous conduit justement à dire que bien sûr nous connaissons la vieillesse, nous connaissons tout le mal qui est dans ce monde, mais que le bien est premier.
Le bien est premier, on peut dire merci à ce moment-là, et vous dites, en citant Lévinas, que merci est un mot prophétique.
Oui, c'est prophétique dans ce sens-là, pas dans le sens de courant qu'on donne à ce mot prophétique, de savoir donc ce qui va se passer demain, je ne pense pas à ça du tout, mais c'est prophétique en un autre sens, c'est prophétique dans le sens où ça nous fait découvrir une dimension de nous-mêmes que nous ignorons souvent.
Merci Catherine Chalier pour cette magnifique leçon de vie et de philosophie. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Découvrir la gratitude au risque de l'asymétrie, qui vient de paraître aux éditions Bayard, un livre beau et fort, avec une belle illustration de Van Gogh sur la couverture, un livre dont on sort traversé par l'intuition que l'on vient de découvrir en soi le point source, l'élan renouvelé d'un désir pour la vie, l'envie de répondre à l'appel du oui inaugural de tous les matins du monde. Merci encore Catherine Chalier.
Merci à vous.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Wachnin, à la prise de son aujourd'hui Dofar Guéride, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à la page de l'émission. Toute l'équipe de Talmudique se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fête de Kippour, Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.